Moi, je suis André, je ne suis pas une personne orientale. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous convaincre au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Plusieurs institutions provinciales ne perçoivent pas depuis quelques mois du gouvernement central les moyens financiers destinés à leur fonctionnement. Certains gouverneurs parlent même de la modicité des moyens mis à leur disposition et des moyens qui arrivent en compte-gouttes. Dans certains cas, les députés provinciaux sont impayés depuis plusieurs mois. Certains observateurs estiment que cette situation relance les débats sur les processus de décentralisation et le fonctionnement des provinces. Comment on arrive à faire fonctionner les provinces depuis un certain temps? C'est la question au centre de notre échange. Rejoignez-nous au 081 890 6315 pour intervenir en direct dans ces magazines. Mis en ordre par André Mongou, Julie Pézabongonda est à la réalisation et au standard. Et puis, Roy Lamy, je vous le présente sous la supervision de Martin Sébouzango, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Comment arrive-t-on à faire fonctionner les provinces dans votre milieu? Nous sommes partis de 11 à 26 provinces, et ce qui veut dire l'augmentation de subventions, l'augmentation aussi des fonds en termes de rétrocession pour que ces différentes provinces puissent faire face aux besoins de la population, que ce soit aussi les charges, les différentes charges sociales. Et certaines s'inquiètent du fait que les prêts qui doivent leur permettre de fonctionner arrivent des fois à compte-gouttes, vu que nous sommes partis de 11 à 26 provinces, mais dans certaines provinces également, les députés provinciaux se plaignent de n'avoir pas touché leurs émoluments depuis plusieurs mois. Alors, comment les provinces fonctionnent-elles pendant cette période? Comment adaptent-elles leurs programmes? Et dans votre milieu, qu'est-ce qu'il faut pour soutenir et avancer dans ces processus de décentralisation? C'est la question au centre de notre échange. Plusieurs interventions sont sur notre page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous allons les récupérer d'un moment à l'autre. Vous êtes aussi nombreux à vouloir intervenir en direct au 081 890 6315. Mais pour en parler, nous avons associé à cet échange M. Alphonse Moïkassagi, gouverneur de la province du Kassai oriental, qui est parmi les doyens, si on peut dire ainsi, des gouverneurs. Monsieur Alphonse Moïkassagi, bonjour, bienvenue dans cet échange au cours des paroles aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Oui, c'est vrai que les défis sont énormes. Un peu en bref, comment aujourd'hui, partant de 11 à 26 provinces, les provinces arrivent-elles aujourd'hui à s'organiser pour fonctionner?
Bien, il faut reconnaître que les provinces ont rencontré d'énormes difficultés depuis la décentralisation, mais avec activité, dernièrement, au moment du démembrement des provinces, liées aux finances. Nous savons que la décentralisation consacre également l'autonomie des finances aux provinces. Et comment est-ce que les provinces peuvent avoir accès à leurs ressources? Et il y a deux choses. Il y a les recettes à caractère national et les recettes propres. Alors, les recettes à caractère national, normalement, selon la Constitution, on devait récupérer à la source. Compte tenu des difficultés liées au budget national, il y a eu un protocole d'accord où les provinces ont consenti de recevoir leurs recettes à caractère national par le biais de la rétrocession, ce qu'on appelle la rétrocession.
Oui.
Bon, cette rétrocession connaît d'énormes difficultés depuis un certain temps. Il y a des provinces qui accusent plus ou moins, au moins 3 mois de retard de rétrocession. Et la rétrocession elle-même n'est pas suffisante pour pouvoir rencontrer les difficultés, les défis à relever par les provinces. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, les ressources propres. Les ressources propres, il faut reconnaître que notre population n'a pas la culture fiscale et les milieux dans lesquels nous vivons sont des milieux pauvres, les gens vivent dans la pauvreté. Et si vous commencez directement à bousculer cette population pour le paiement des taxes et impôts, et écoutez, vous allez rencontrer des problèmes parfois de soulèvements, etc. On n'en a pas besoin pour le moment. Il faut y aller méthodiquement, commencer par la sensibilisation, etc. Donc, ça veut dire que, en ressources propres, les provinces n'ont pas assez de moyens pour pouvoir rencontrer les défis que la population attend. Et au niveau des restes à caractère national, cette difficulté-là, d'abord la modicité de la rétrocession, et ensuite de leur retard. Donc, ça rencontre des retards et on n'est pas payé. Quand on n'est pas payé, comment est-ce qu'on va rencontrer les défis qui nous attendent?
Alors, est-ce que le problème d'aujourd'hui, quand vous avez évoqué la modicité, aussi la rareté de la rétrocession, est-ce que c'est un problème de baisse des recettes d'une manière globale? Est-ce que c'est un problème de contribution des provinces? Ou c'est un problème de dysfonctionnement ou un problème de volonté au niveau de l'application de ces différentes décisions entre le gouvernement central et les provinces?
Il est vrai que les raisons avancées par le premier ministre sortant, c'est la baisse des recettes. Bien. Même si cette raison-là peut être avancée, mais nous, depuis 2007, je suis en fonction comme gouverneur, la difficulté financière mondiale n'est pas la même qu'en 2008. En 2008, il y avait une crise financière mondiale et une baisse des ressources. Au niveau mondial, même les grandes puissances du monde, dans les puissances financières, ont rencontré les mêmes difficultés. Mais à l'époque, on n'avait pas réduit la rétrocession. Et ici, on rencontre. Je peux vous dire, par exemple, le lingot de cuivre se vendait à ce moment-là autour de 2500. Maintenant, on est à 5000 ou même 5000 plus. Donc, mais c'est un problème quelque part de volonté. De volonté, si on doit favoriser le développement à la base, il faut le faire à partir de la base, à partir des provinces. Mais ici, la volonté était de tout centraliser. Écoutez, c'est ça qu'il y a. Moi, je parle d'un problème de volonté.
Alors, on se rappelle bien que, mais au niveau de la Constitution, cela est prévu, il fallait mettre en place la caisse de péréquation pour aider les provinces, peut-être qu'elles ne pouvaient pas faire face à ces problèmes de ressources. On sait qu'on a eu beaucoup de difficultés pour mettre en place cette caisse de péréquation. Mais d'un côté aussi, avec la loi de la programmation de la mise en place des nouvelles provinces, le gouvernement, la loi avait prévu qu'au lendemain de la mise en place de ces nouvelles provinces, qu'il y ait un programme d'urgence arrêté d'un commun accord entre les autorités provinciales et le gouvernement central pour le financement de certaines infrastructures. Est-ce que cela a suivi le découpage et la mise en place des nouvelles provinces?
Non, quelque part, écoutez, le chef de l'État, avec toute sa bonne volonté, il y a un chef du gouvernement. Et je dois vous dire que il y a eu une conférence des gouverneurs à la suite de laquelle un certain nombre de mesures étaient prises. Mais nous devons vous dire, quand on discute avec le ministre au niveau national ici, et ils attendaient la signature du premier ministre. Donc à ce niveau-là, que les choses se bloquaient. Les choses se sont bloquées à ce niveau-là.
Au niveau du Premier ministre. Alors, en bref, comment alors concrètement les différentes provinces font-elles face aujourd'hui aux charges, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, il y a le fonctionnement même, il y a tous les financements des projets de base. Comment alors les provinces arrivent-elles dans ces conditions à fonctionner?
Écoutez, le démembrement est constaté par la Constitution, c'est la volonté de toute la population de notre pays. Et le demandement a été salué par l'ensemble de notre peuple. Et le chef de l'État a concrétisé le vœu de la population. Maintenant, quand il n'y a pas un début de développement, quand au niveau des autorités provinciales, il n'y a pas des actions, il n'y a pas de projets qui sont réalisés, les députés provinciaux ne sont pas payés. Même les ministres qui sont les gouvernements provinciaux, n'ont pas de quoi, pas de salaire, les ministres marchent à pied, etc. Écoutez, ne soyez pas étonnés, il y a des crises partout dans les provinces. On pense que le gouverneur a les moyens, ils ne font rien, voilà, au niveau de la population, la méfiance commence à s'installer.
Oui.
Au niveau de entre exécutif et assemblée provinciale, il y a des problèmes, parce que quand un ventre a tombé la pointe dorée, quand un député provincial n'a pas touché ses monuments, hein, c'est quoi? Il va se rabattre sur
le gouverneur.
Le gouverneur n'ayant pas le moyen. Écoutez, ce sont des crises qu'on commence à gérer.
Voilà. On va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs qui ont le témoignage. Sylvain, vous êtes à Bounia, élu local en Bandaka, c'est aussi les provinces qui sont issues du découpage. Comment alors l'exécutif provincial arrive-t-il à faire face aujourd'hui aux problèmes dans ces conditions? 081-890-1735.
Parole aux auditeurs.
Sylvain, vous êtes avec nous. On a eu plusieurs débats autour du processus de décentralisation, le découpage quand ça a été lancé, et en écoutant le gouverneur Alphonse Mouekassangi et toutes les difficultés auxquelles aujourd'hui les exécutifs provinciaux font face par rapport aux relations avec les gouvernements centrales. Est-ce qu'on peut dire que la mise en place de ces processus a connu un déficit au niveau de la volonté de bien les préparer, Sylvain? Bonjour et merci d'être avec nous.
Merci. Peut-être pour faire un petit collectif, je vous appelle à partir de Mahagi, mon président d'origine.
Ok.
Je suis en vacances ici. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je voudrais d'abord saluer mon compatriote Alphonse Mouekassangi. En fait, il faut dire que ce débat lancé était prévisible. Prévisible pourquoi? Il me semble qu'on ne s'était pas préparé à assumer certaines charges publiques de grands envergure. Je ne voudrais pas ici rappeler le débat d'ordre juridique ou juridico-politique à ce qui concerne les processus de décentralisation en RDC, mais je voudrais plus voir ici l'aspect du management des nouvelles provinces et je dirais même de l'ancienne province, puisque c'est ça les grands débats. En fait, monsieur le journaliste, je parle de la province de l'Ituri. Et en parlant de la province de l'Ituri, je voudrais relever quelques points aux questions. La première question, vous me parlez assez vite. Comment est-ce qu'à l'Ituri, nous gérons les recettes produites à l'Ituri? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que l'Ituri reçoit les rétrocessions du gouvernement central? La troisième question, est-ce que l'Ituri recourt à des dettes pour financer son développement? Là, je veux parler de dettes internes. Mais aussi, je dis, la quatrième question, est-ce que les autorités politiques qui gèrent l'Ituri aujourd'hui ont un plan global du développement de l'Ituri? Il me paraît que, face à ces quatre grandes questions, il y a une attitude qu'il faut adopter. Je suis en train de noter avec insatisfaction une absence quasi existante, ou je dirais une absence prolongée, du gouverneur qui est censé répondre aux préoccupations des Ituriens. Je vais parler de l'Ituri. Et je note aussi avec insatisfaction la maîtrise des grands problèmes de l'Ituri. Monsieur le journaliste, je dois rappeler qu'à 2009, autour de la Caritas, il y a eu déjà des Ituriens qui avaient réfléchi sur le plan de développement de l'Ituri. Et avec l'ancien gouverneur Bamanissa, il y avait déjà des mini-plans pour la gouvernance des quatre nouvelles provinces issues de la grande province orientale. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes nulle part. Si je reviens sur la question du développement des biens pratiqués, par exemple, j'ai fait Bounia avant-hier, jusqu'à Mahagi, il n'y a pas de route. Je suis là, il n'y a pas l'internet. J'allais vous balancer, j'ai trouvé un pot cassé, un véhicule endommagé dans l'eau, et je m'imagine le sort de la population, ou soit déjà qui est au bord de ces véhicules. Donc, sur le plan de développement économique, il me semble qu'il n'y a aucun plan. Sur le plan de développement des entités locales, je dirais même le chef-lieu de secteur. Lorsque vous allez quelque part, puisque nous tous sommes ici de certains chef-lieux, de certains secteurs, tout le monde se plaint. Tout est mis en moule, comme les compatriotes Ngoïka Sangila dit. Donc on ne sait pas comprendre. Finalement, on va commencer par où? et on va finir par où. Mais je dis ceci, d'une manière générale, on risque de constater une absence de management politique au sommet des nouvelles provinces, qui apparemment, les affaires n'étaient pas préparées. Ils ont chuté de quelque part, et alors tout devient au débit, et on ne peut pas assumer cette responsabilité.
Alors, si nous avons suivi ce que disait le gouverneur Alphonse Ngoumangi tout à l'heure, autour de moyens, 300, faisons par exemple 3 mois, qui peut-être que le gouvernement central n'envoie pas de fonds, des rétrocessions, il n'y a pas de recettes locales, et même quand bien même le gouverneur auront toute leur bonne volonté de pouvoir travailler, dès lors qu'ils ne reçoivent pas du gouvernement central le fonds nécessaire pour mettre en place le plan, pensez-vous aujourd'hui que tous les plans qui peuvent être élaborés peuvent réussir s'il n'y a pas de moyens conséquents qui suivent?
Mais monsieur le journaliste, cette question me fait rire. En tant que spécialiste de management des organisations, ça veut dire quoi? Pourquoi on a celui qu'on appelle ministre des Finances? Alors je vais faire une petite comparaison ici. Dans les entreprises, lorsqu'on est chargé des finances, ça veut dire qu'on est à même de chercher le financement, disons les sources de financement, et de les accepter rationnellement dans les lieux de finances, disons dans un domaine quelconque. Donc il me paraît là encore, nous avons des administratifs au lieu d'avoir des financiers. Tout ce que j'ai dit, de dire une vérité. Aujourd'hui, tout développement passe par le financement bancaire. Est-ce que nos autorités ont des amabilités, des capacités d'entrevoir des contacts avec les banquiers au monde et partout pour financer les investissements dans les provinces? Nous avons des gens qui sont prêts dans les petits bureaux et attendre un salaire magique. C'est ça le problème au Congo.
Oui, allez-y, Sylvain, parce que je vois là, il y a beaucoup d'auditeurs qui se battent sur les standards. Mais si nous revenons en bref, dites-moi rapidement, oui.
Oui, à 2 minutes, disons, à 10 secondes. Le problème que nous avons, c'est un problème de maîtriser d'avance les charges qui sont les nôtres, rechercher des sources de financement, les accepter.
Voilà. Voilà, c'est à ce niveau-là. Pour vous, vous avez dit, Sylvain, que le problème, c'est un problème de management. Les provinces, quand de même elles ne reçoivent pas autant qu'ils viennent du gouvernement central, ils peuvent localement s'organiser à pouvoir identifier les sources de financement, mobiliser les ressources pour pouvoir les affecter. C'est à ce niveau-là où se trouve le problème. Merci beaucoup, Sylvain. Élie Lokwa, vous êtes en Bandaka. Est-ce que vous pensez que le problème aujourd'hui, c'est d'attendre que le gouvernement central puisse faire sa part des responsabilités, ou bien au niveau des provinces, il y a moyen d'avoir tous ces projets, mobiliser les ressources localement et pouvoir les affecter, tout en tenant compte, bien sûr, de toutes les difficultés des pauvretés, comme le disait tout à l'heure notre invité. Élie, merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci, la Radio Capi. Je voudrais de m'acquitter de mes obligations, celle de vous remercier pour m'avoir pris l'opportunité d'intervenir en cette émission par aux auditeurs. Mais je voudrais en quelque sorte un peu aborder ma préoccupation sur plusieurs paramètres, surtout du point de vue structure et répartition des compétences. À vrai dire, nous allons vite comprendre que les démembrements a été déjà fait, les transferts de pouvoir a été déjà fait, l'organisation des élections des nouveaux gouverneurs sont déjà réalisées, mais en réalité, il y a un sérieux problème pour les frais de fonctionnement des provinces. A fortiori, et la province de la Tchopa, dont j'étais parti à un certain moment pour une petite investigation, j'ai trouvé une certaine dangerosité, surtout sur cette question des frais de fonctionnement. Il y a ceci. On le voit chaque mois, selon les principes déjà établis, chaque mois, le gouvernement provincial doit recevoir 60 millions de francs congolais. Mais la province de la Tchopa, je vous le dis franchement, n'a reçu que 60 millions des mois, c'est fini. Alors, vous allez vite comprendre que les autres mois seraient toujours chaotiques pour les paiements des fonctionnaires, n'est-ce pas? Les paiements des fonctionnaires aujourd'hui est devenu dérisoire. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours des difficultés pour la mise en place, n'est-ce pas, des infrastructures immobilières. La province de la Tchopa, si le plan des infrastructures routières, je vais vous le dire, pour quitter cette province, lorsqu'on est à Boulogne, pour aller à Bukungu, ça devient un problème impraticable. Il y a l'impraticabilité de route. Et je veux aussi parler de la situation au cours de laquelle il y avait une conférence du gouverneur, dont la résolution était tombée sur 250 millions pour pouvoir prêter, n'est-ce pas, aux provinces et des membres. Or, cette résolution de 250 millions jusqu'alors est irréaliste. Donc, le gouvernement central est la cause et qui produit aujourd'hui certaines conséquences qui font en sorte que les provinces et démembrées n'arrivent pas à bien se développer. Et dans ce sens, là, j'ai aussi abordé une petite préoccupation par rapport à la mairie et puis les villes. Vous savez, dans les grandes provinces, il y a des mairies, il y a des villes. Il y a des bourgmestres, il y a des maires de la ville. Mais dans certaines provinces, et surtout la province de Mambré, il n'y en a pas. Et suite au manque de moyens, suite à la mauvaise politique, et suite à la gestion des fonds publics. Mais par ailleurs, je veux vous dire qu'aujourd'hui, dans cette province de la Tuapadon, j'ai marqué souvent parce que j'étais là-bas, il y a un problème, il y a une mésintelligence politique. Il y a surtout des mésintelligences politiques entre l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif. Tout à quoi, parce qu'on sous-entend que le gouverneur de province détourne les fonds. Or, ce n'est pas encore le cas. Je le dis franchement, le gouverneur de province n'envoie pas de l'argent pour cette
question. Et là, c'est un problème très sérieux. Et lui, comme vous l'avez dit, la province ne soit pas devait recevoir 60 millions chaque mois. Et ça fait deux mois seulement que la province a reçu ses fonds de pour le fonctionnement, et là, qu'il n'y a pas ces fonds, c'est difficile. C'est pourquoi l'invité parlait tout à l'heure de mésentente, de soupçons entre le gouvernement provincial ainsi que les assemblées provinciales autour de la gestion de cet argent qui arrive. Et vous dites que le problème aujourd'hui, c'est la responsabilité du gouvernement central de pouvoir honorer les engagements qui sont même au niveau de la Constitution. Et même la loi, pourtant, la loi de programmation de la mise en place de nouvelles provinces avait déjà dit que le gouvernement définisse de mécanismes, de doter aux nouvelles province des moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Merci beaucoup, Elie Ilokwa. Oui, merci beaucoup, Elie Félicien. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Est-ce que vous pouvez diminuer votre poste à cette heure? Vous avez suivi tout à l'heure notre invité qui évoque cette question de la volonté au niveau du gouvernement central de pouvoir faciliter aux provinces de fonctionner. Mais aussi, Sylvain lui explique que la question, c'est aussi localement, comment les provinces elles-mêmes peuvent-elles définir des mécanismes de mobilisation des ressources locales et pouvoir les affecter d'une manière correcte. Alors, comment on peut arriver à permettre à ce que ces provinces fonctionnent pour réussir ces processus de décentralisation?
Oui, merci pour votre question. Je dis que le départ était déjà mauvais et les voix se sont élevées pour dire que c'est pas de cette façon-là qu'on devrait vraiment et appliquer les démembrements des provinces. Et on a fait dans la précipitation pour les besoins, pour des raisons politiques. Et voilà, aujourd'hui, on est dans cette situation où on ne sait pas avancer, alors que tout cela avait déjà été dit. Et déjà, quand on était avec les 12 provinces, on avait déjà un problème de récession, de la rétrocession de 40%, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été d'application. Et maintenant, on vient avec ces 26 provinces, il y a un problème de caisse de péréquation qui n'est jamais d'application. Moi, je pense que les gens ne devraient pas faire des choses en recourant aux calculs politiques pour les intérêts personnels. C'est un problème de l'intérêt général, un problème de la nation. Et on pouvait vraiment aller mollo en allant d'une province à l'autre, comme on a essayé sous la Deuxième République, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que si on fait ça, si on ne fait pas du tout, si on n'applique pas le démembrement, ça sera violer la Constitution. Mais on l'a fait avec les élections, on les a reportées, et ça n'a pas, on n'a pas violé la Constitution. Donc, si nous aimons notre pays, nous devons chercher à le construire pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, je vous dis que la situation deviendra plus difficile encore quand le budget de tout un pays ne fait que diminuer. Ça part de 8 à 4 milliards. Je ne sais pas comment ces provinces vont fonctionner. J'étais là où nous disons que on a mis les bâtons plutôt la charrue avant le bœuf. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est pas un problème d'approcher ou de développer à la base, parce que nous avons vécu dans ce pays avec 6 provinces et les colonisateurs ont été partout, il y avait des routes partout, on arrivait, il y avait des magasins partout, il y avait des dispensaires partout, il y avait des écoles partout, même et dans les coins les plus reculés, et ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, on fait des choses comme si on voulait faire plaisir à quelqu'un, et voilà là où nous en sommes. Mm-hmm. Nous commençons à devenir sérieux, ceux qui nous gèrent doivent savoir qu'ils sont en train de travailler pour l'avenir des générations qui viennent, et ils ne doivent pas s'amuser comme ça avec la gestion de la République.
Merci, Félicien. Vous avez estimé que cette question pouvait être... on devait y aller province par province avec beaucoup plus d'étapes, mais pour vous, c'est une inquiétude. C'est ce qu'on va demander à notre invité tout à l'heure. Alors que les budgets étaient à 8 milliards, on avait déjà des difficultés, les provinces connaissaient déjà des difficultés. Aujourd'hui, qu'on retombe à 4,5 milliards avec priorité pour les élections, comment encore ces provinces vont-elles continuer à faire face à tout cela? 081-890-6340 pour intervenir en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Capi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Capi.net, la radio indifférée à votre service.
Voilà, nous revenons à vous, Alphonse Nouek-Tangi, vous êtes avec nous?
Oui, on est ensemble.
Vous avez suivi hein, les auditeurs, c'est vrai qu'il y a des particularités par rapport à chaque province, mais il y a quand même ce que Sylvain a relevé tout à l'heure par rapport au management des provinces. Il a parlé de la rétrocession, des recettes, ressources propres, dettes internes. Mais pour lui, il estime que malgré toutes ces difficultés, les provinces peuvent rehausser leur capacité de mobilisation des recettes et savoir aussi comment les affecter et qui vont. Mais Élie et Félicien sont revenus sur la responsabilité du gouvernement central, mais avec plus d'inquiétude, hein, avec la réduction du budget et les dépenses autour des élections, pour savoir quand même, est-ce qu'au niveau de vous, tous les gouverneurs, au niveau de la conférence, y a-t-il échange d'informations aujourd'hui et des discussions avec les gouvernements centrales pour qu'on arrive enfin à permettre à ce que cette situation soit décantée et que les provinces fonctionnent?
Bien, écoutez, je salue tous les intervenants de tout à l'heure. J'ai suivi l'intervenant de Touri, qui a parlé du management, de la mobilisation, du financement. Et il dit qu'il y a moyen de mobiliser les financements auprès des banques et sur les plans internationaux. Écoutez, tout ça, ça se fait, peut-être qu'il n'a pas l'information. Pour accéder à un financement auprès d'une banque, il faut une garantie. Et la garantie doit être donc domicilier les recettes, soit locales, soit les recettes à caractère national. Mm-hmm. Que, bon, je reçois mensuellement 200 millions de francs et je vais domicilier une banque, je vais domicilier 100 millions et je sollicite 3 milliards par exemple. Si je domicilie 100 millions de francs, on va compter 30 mois pour avoir les 3 milliards. Et c'est sur base de ça qu'une banque peut vous prêter son argent. Donc, sur le plan international, pour accéder au financement au niveau international, il faut la garantie souveraine. Donc, les provinces ne peuvent pas aller solliciter un financement au niveau international sans une garantie souveraine. La garantie souveraine est accordée par le gouvernement central à travers le ministère des Finances. Donc, au-delà de ça, les provinces font des contacts. Et ce que vous voyez, soit la CTB, soit d'autres bailleurs qui viennent réaliser des projets dans les provinces, etc. Ça, ça se fait. Mais ce que nous disons, c'est l'action de l'exécutif, des exécutifs provinciaux, l'action directe. Cette action est butée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par, disons, l'irrégularité de la rétrocession, la modicité de la rétrocession, etc. J'ai parlé de la volonté. Nous nous réunissons, j'ai dit, on se réunit dans un cadre qui est la conférence des gouverneurs. Et à ce moment-là, on lève les options pour favoriser les développements à la base. Et les options qui sont levées, le plus souvent, on signe des protocoles d'accord. Hein, pour le cas le plus concret, on a signé des protocoles d'accord entre le gouvernement provincial et le gouvernement national. Et ce sont les ministres qui signent. Mais l'application de ce protocole d'accord, c'est le premier ministre. On nous dit, bon, le premier ministre n'a pas accepté, bon, voilà, il n'a pas voulu, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et depuis, je peux vous dire qu'on a eu la conférence de gouverneur de Kisangani.
Mm-hmm.
Et les décisions, les résolutions de cette conférence étaient appliquées parce qu'à l'époque, le Premier ministre avait adhéré à ça. Mais cette fois-ci, toutes les résolutions de la conférence des gouverneurs de Kananga, la conférence des gouverneurs de Lubumbashi, toutes ces résolutions-là n'ont pas été appliquées, tout simplement parce que le Premier ministre n'avait pas adhéré à ça, n'avait pas signé. Et voilà qu'aujourd'hui, on rencontre ces difficultés-là. Et moi, je dois vous dire que s'il y a la volonté, s'il y a la volonté, même pour mobiliser les ressources propres. Un enfant, il faut le tenir. L'enfant ne marche pas, il ne commence pas à courir directement.
Mm-hmm.
L'enfant, on commence par le tenir à la main. Donc là, on lui apprend comment marcher, comment se tenir debout, comment marcher. Et finalement, on lâche l'enfant, il marche tout seul. Et ici, les nouvelles provinces, on ne le tient pas à la main. Même pour récolter, il faut s'aimer. Il faut s'aimer et récolter. Il faut d'abord investir. Il faut des investissements, il faut le minimum de moyens pour aider les provinces à pouvoir se relever, à pouvoir se prendre en charge. Voilà ma lecture.
Alors, vous l'avez dit que c'est un problème de volonté. Est-ce qu'on peut dire que les résolutions, que ce soit la conférence des gouverneurs avec les chefs d'État, il faut quand même qu'on le rappelle. Est-ce que le projet défini, le protocole d'accord défini au niveau de la conférence des gouverneurs, et si le Premier ministre n'adhérait pas à cela, est-ce que c'est parce que ça pouvait occasionner des dépenses au-delà de capacité de ce que les gouvernements pouvaient faire, ou tout simplement parce que c'est là, mais ne cadre pas avec la politique du gouvernement central au niveau du soutien et du développement des provinces.
Et quand même, il faut le savoir, quand un ministre du budget, un ministre des finances, ce sont ces ministres-là qui mobilisent les ressources, les recettes. Quand vous signez le protocole d'accord, ils vous disent que nous sommes en mesure de remettre à chaque province 250 millions pour leur budget d'investissement. Et ils vous disent qu'ils connaissent ce qu'ils sont capables de mobiliser, ils savent les dépenses auxquelles ils font face,
mm-hmm.
et quand ils signent, c'est-à-dire, en âme et conscience, ils savent que ça peut se faire. Mais alors, il faut la volonté de celui-là. Il dit non, bon, il n'accorde pas. Et ils vous disent, bon, écoutez, il n'a pas accordé. Il n'a pas accordé. Pour des raisons qui sont propres.
Et dans ces conditions, ça devient difficile. On va écouter l'ingénieur Valérie qui est à Kindou et maître son ville à Lubumbashi. Ingénieur Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup, M. Pierrot, de m'avoir passé la parole. Je salue tous les auditeurs et le gouverneur Alphonse Moïka Fangi. Bien, j'ai l'impression que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que nous n'avons pas respecté nos propres peuples. J'estime qu'au départ, lorsqu'il a été décidé que pour la gestion des provinces, il y aura des recettes à caractère propre et des recettes à caractère national, plus une caisse de péréquation. Cela résultait d'une analyse minutieuse des réalités, des enjeux entre les provinces et le gouvernement central. Mais pour autant qu'après ces travaux, on n'a pas marché sur cette ligne, je crois que c'est le tout premier point de départ.
Mm-hmm.
Les juristes que je ne suis pas disent dans l'une de leurs maximes tirées du droit romano-germanique, « Patere legeme quame ipse fecui ». Respecte la loi qui est toi-même élaborée. Parce que nous n'avons pas respecté la loi que nous n'avons pas élaborée. Là qu'aujourd'hui, nous commençons à parler en termes de la conférence des gouverneurs de Kisangani, de Kananga, de Lubumbashi. Mais dans tout ça, nous irons d'arrangement en arrangement. Mais ce n'est pas coercitif par rapport à la Constitution. Imaginez-vous lorsque les provinces n'ont pas d'argent. Mais c'est très dangereux. Le pouvoir en soi, pour l'exercer, le pouvoir réunit pratiquement 3 actes. Le pouvoir lui-même, il est déjà un acte important. Il y a l'argent et il y a la puissance publique. C'est comme si on donnait de l'argent à un gouverneur et qu'on ne lui donnait pas la puissance publique. Donc, c'est un moteur trifasé qui ne peut pas fonctionner pour autant que l'une des phases ne soit présente. D'où moi je pense Et comme ça a déjà eu lieu, il serait mieux qu'il se réunisse encore, qu'il compose une conférence des gouverneurs, qu'il prenne maintenant des accords tout à fait pratiques au regard de tout ce qui s'est passé. De cette manière, nous pourrons bien évoluer. D'autant plus que, hier, on avait un juge supérieur. On n'a pas tellement connu ça. Aujourd'hui, nous avons un juge inférieur. Je me dis comment ça peut marcher. Donc, les gouverneurs ont tout intérêt à demander encore une autre table ronde avec le gouvernement central et qu'ils prennent tout à fait l'initiative. Je peux vous donner quelques exemples.
Allez-y rapidement, oui.
Nous avons un budget de 4 milliards et demi avec une population de 80 millions. Tandis que le Rwanda, il a un budget de 2 milliards avec 11 millions d'habitants, donc 11 millions 900 000. Vous prenez un pays comme l'Angola, qui n'a que 26 millions d'habitants, donc le tiers de notre population, mais avec un budget de 30 milliards. Tandis que la Tanzanie ici a un budget de 13 milliards avec une population de 55 millions. Donc vous comprenez que devant une telle situation, il n'y a qu'une rencontre et que les gens se parlent.
Quelle est cette rencontre? Une rencontre extraordinaire entre le gouverneur et le gouvernement central. Mais vous avez évoqué, ingénieur Valérie, vous avez évoqué le cas des transferts des compétences parce que vous avez dit on peut donner le moyen. Est-ce que les compétences ont été transférées totalement aux provinces? C'est ce qu'a Lilo quoi a évoqué tout à l'heure. On pourra poser cette question à notre invité. Si aujourd'hui le gouvernement central a laissé les provinces fonctionner les mains libres, laisser les mains libres pour bien fonctionner, c'est aussi une paire de manches. Mais pour vous, tout réside dans le fait qu'on n'a pas respecté la loi ni pour la rétrocession même qui a été convenue, ni pour la retenue à la ressource de 40%, ni même pour la caisse des péréquations. Tout ce qu'il faut faire, c'est respecter les textes. Merci. Alors, Mbashi, Maître Sonville, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Pio. Bonjour à Monsieur Alphonse Cassange, le gouverneur du Cassa-Oriental. Et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Et alors, comment permettre aux provinces aujourd'hui de pouvoir fonctionner, que ce soit la rétrocession, la retenue, bon, ça a été déjà convenu ainsi. Et voilà, dans toutes ces conditions, comment ces provinces peuvent-elles faire face aux différentes charges?
Il faut d'abord combattre les antivaleurs d'emblée, Monsieur Pio. Et d'ailleurs, moi, j'estime que ce n'est pas une question du management. C'est un faux débat, mais quand on parle de management, c'est question de volonté politique et d'application des tests. Nous avons des bons tests qui ne sont jamais appliqués. Et d'ailleurs, Monsieur Perrault, pour votre gouvernement, le démembrement est constitutionnel, oui, ça devrait avoir lieu depuis 2008-2009. Donc, après les élections de 2016, la fin était faite, vu les enjeux politiques, cette décentralisation a été précipitée. Tous les paramètres n'ont pas été mis en place pour faciliter la bonne gestion des provinces. Et cette décentralisation a été précipitée pour que le gouvernement puisse placer ses pairs à la tête de chaque province, puisqu'il y avait des élections en vue. C'est ça même le vrai problème. Surtout pour l'ex Katanga, il croyait peut-être fragiliser les gestes au niveau du Katanga. C'est ça le problème. On a précipité ce démembrement sans pour autant avoir utilisé tous les mécanismes qu'on devait mettre en marche pour que ces provinces puissent bien fonctionner. Mais dans l'article 4, M. Juillet, de notre Constitution, de votre province antidépresseur peuvent être créées par démembrement ou par recrutement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Voyez de quelle manière ils ont précipité ce démembrement. Or, dans l'alinéa 3, et dans l'article 3 de l'alinéa 3, à l'alinéa 3, les provinces jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Est-ce vraiment ces administrations jouissent de leur liberté, de leur autonomie? C'est une question que nous nous posons.
Et parce que vous avez posé la question directement.
Si on parlait de la rétrocession, qui n'a jamais été effective, est-ce que maintenant, à la rue, on voit les choses? Je ne suis pas responsable de M. Perrault. Nous vivons dans une république bananière.
Les termes que vous avez utilisés, Maître Sonville, je crois quand même que les termes, il est plus lourd quand même dans un débat. Oui, si vous le retirez, c'est mieux. Mais parce que vous avez posé la question.
Si nous parlons des assemblées provinciales, M. Perrault, l'assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines de compétences réservées à la province. Elle contrôle le gouvernement. Mais aussi, autant que ces députés-là ne sont pas payés, comment est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils peuvent même convoquer le gouvernement, puisque le gouvernement est en train d'amasser l'argent par-ci, par-là?
Et ça sera difficile. Alors, on va poser la question directement à notre invité parce que vous êtes revenu comme élu ou quoi sur la question de l'autonomie, des transferts des compétences et Alphonse Moïcassangi. Est-ce que dans cette configuration, au-delà de toute cette polémique économique, qu'est-ce que le plan de l'administration aujourd'hui? Les provinces ont-elles toutes leurs compétences transférées? Et juste vraiment de l'autonomie en termes d'administration aujourd'hui, au-delà de questions qui touchent à l'économie?
Bon, écoutez, à ce jour, le transfert de compétences n'est pas encore effectif. Donc, par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, donc les compétences pour commerce, ce n'est pas encore effectif.
Mm-hmm.
On y va progressivement. Le démembrement est constitutionnel, c'est la volonté du peuple. Mais est-ce qu'on y est allé précisément? Moi, je dirais non. Je reviens toujours à vous dire que nous voyons de l'argent affecté à d'autres choses, tout ça. On n'a pas considéré, au niveau de l'impulsion du gouvernement, on n'a pas considéré les ressources accordées aux provinces comme une priorité.
Mm-hmm.
Par exemple, vous avez les provinces minières qui font des exportations, etc., et dont les provinces ont droit à la redevance minière. Bon, vous avez vu les écrits, même du directeur du cabinet du chef de l'État, qui demande à ce qu'on puisse accorder la redevance minière aux provinces. C'est leur droit. Mais cela est vu. Le ministre des Mines a écrit, le ministre des Finances a écrit, mais c'est au niveau du Premier ministre. Oui, il dit non, bon, il n'a pas jugé ça comme une priorité. Pour lui, bon, les provinces, peut-être sa province où lui trouve qu'il y a de l'intérêt, mais ailleurs. Ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas précipitation.
Mm-hmm.
Ça s'est fait parce que plusieurs années plus tard, cette constitution a été votée. Le référendum a constaté la volonté du peuple congolais d'aller au démembrement. Et ça s'est fait plus tard, plusieurs années plus tard. Ce n'est pas précipité, mais il fallait une volonté politique au niveau du chef du gouvernement. Et ça, je le dirai toujours parce que je lui avais dit à la dernière conférence de gouverneur. Et j'ai dit ce que je connais. Donc, au niveau de l'autonomie des finances, j'ai fustigé le fait que quelque part là, il y a une volonté qui a manqué. Mais, à dire que les ressources mobilisées par les provinces, le pouvoir central se gère, non. Si les provinces mobilisent quelque chose, bon, là, il faut dire aussi qu'il y a des différences entre les provinces qui sont, par exemple, à la frontière, comme le Katanga, qui a des ressources propres et importantes. Le Haut-Katanga, le Lualaba, ils ont quand même des ressources propres importantes. Tandis que le Lomamina, ils peuvent mobiliser, je ne sais pas si c'est 30 ou 40 millions de francs en recettes propres. Le gouvernement central ne vient pas les gérer. Là, ils gèrent leurs ressources propres en toute indépendance.
Bon, on va écouter Arsène qui est à l'écoute, Maître Bita, qui est, je crois bien, en Mandaka. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur Firé, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour
voilà.
Aussi au gouverneur Ngoïcassangi.
On vous écoute, Arsène.
Merci. Bon, moi, à mon avis, quand d'abord vous remarquez la première chose et que les gouvernants s'entrecusent entre eux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. De deux, le gouvernement central qui doit orienter des fonds vers le gouvernement des provinces, je crois que ce gouvernement-là n'a même pas une idée de ce que c'est les provinces. Je veux dire ceci, quand tout le système est en mal, rien ne peut réussir. Souvenez-vous, une fois, sur ces ondes, on a fait une émission avec le conseiller du ministre à l'intérieur. Quand je lui disais, on ne peut rien harmoniser tant qu'il y a des désordres, lui me répondait, qui était derrière moi. Je crois qu'il y a une façon de voir les choses dans la politique même de notre nation. Au lieu de voir la politique du développement au vrai sens du mot, la technique à part, la science à part, la politique aussi à part. Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous remarquons, toutes les initiatives que nous prenons, c'est la politique qui prime. C'est le dialogue qui prime. Ce sont des propagandes inutiles. Pourtant, sur le terrain, rien ne marche. Comment ça peut-il se faire qu'on peut développer ce pays quand on oublie la base? Pourtant, le développement ne vient que de la base. Ma grand-mère qui produisait il y a 10 ans, 20 ans, deux sacs de manioc, par exemple, dans son champ, n'a plus le courage de produire les deux sacs aujourd'hui. Elle va en produire peut-être un sac, peut-être la moitié. Qu'est-ce que fait le gouvernement central pour que cette production que ma grand-mère produisait il y a 30 ans passé puisse augmenter? Le gouvernement central ne fait rien. Alors, moi, son petit-fils, qu'est-ce que je vais faire au village? Je sors, je vais étudier, j'arrive en ville, j'étudie en ville, je trouve que tout est calculé en faux. Je ne retourne plus au village et la production baisse. Donc, ça veut dire ceci. Tant que nous n'allons pas commencer le développement de ce pays par la base, par des initiatives de la base, le gouverneur ne peut pas se plaindre, ils doivent avoir des initiatives à la base. Et la population, la contribution populaire, qu'est-ce que vous en dites? La population aujourd'hui ne peut pas contribuer parce qu'ils n'ont pas confiance. Hein, le peuple n'a pas confiance des dirigeants. Il faut refaire naître la confiance entre le dirigeant et les dirigeants.
Et les dirigeants. C'est de cette façon que vous estimez. Mais alors, vous avez quand même dit quelque chose de très important, qu'il faut quand même qu'il y ait, quand on parle de provinces, que ceux qui sont au niveau de Kinshasa, disons, le gouvernement central ait une idée de ces provinces. Vous l'avez dit, des fois, les gens n'ont pas une idée de ces provinces. Mais d'un côté, quand même, vous souhaitez que les gouverneurs initient des projets à la base, qu'il y ait la confiance entre les gouvernants et les gouvernés pour que la population aussi participe au niveau du développement à la base. Merci beaucoup. Maître Bita, vous êtes en Bandaka. Bonjour et merci d'être avec nous dans cet échange.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux auditeurs de la radio Kapi et au président de Kachangui. Je peux dire ceci, et tout cela résulte de la conséquence du démembrement précipité. Un démembrement qui a intervenu à la suite des règlements des comptes politiques. Voilà les conséquences aujourd'hui. Bon, revenons sur le gouverneur. Bon, est-ce qu'il faut seulement attendre le fonctionnement des provinces par le gouvernement central? Nous avons des leviers financiers au niveau des provinces. Je suis à Mbandaka, nous avons la TGRX à Mbandaka qui produit des fonds, qui relève des fonds et nommé fonds propres des provinces. Donc ces fonds-là ne sont rien. Donc ces fonds qui entrent dans les poches des gouverneurs. Nous sommes aussi tout banquiers. Il y a également un récit qui est créé. Est-ce que les fonds générés par ces récits-là, ils vont où? Ils vont dans les poches des gouverneurs. Bon, lorsque nous voulons un développement qui viendra de l'extérieur, c'est-à-dire et non pas de nous-mêmes, alors on va continuer à faire, on va continuer à dire voilà, il n'y a pas l'argent, les députés ne sont pas payés, et nous ici nous ne sommes pas.
Maître Bita, quand même, quand vous avez dit, quand vous dites que non, les recettes mobilisées par les régies financières provinciales vont dans les poches des gouverneurs. Mais vous avez quand même des assemblées provinciales. Y a-t-il eu déjà aujourd'hui des interpellations, des débats? Et vous-même, en tant que juriste, vous apportez des uns et des autres pour savoir que ce soit dans le sud ou Bangui, ça représente quoi aujourd'hui ces fonds mobilisés par les régies provinciales? Est-ce que vous vous êtes déjà approché même de vos députés provinciaux pour qu'ils posent des questions? C'est votre droit de savoir qu'on a mobilisé combien, ça a été affecté à quoi, pour que ça ne reste pas dans une accusation générale qui s'entre dans le poste du gouverneur.
Oui, je parle ici en tant que gouverneur. Je suis gouverneur, je suis administré. Donc, le gouverneur, les députés provinciaux, les gens de gouvernement, nous subissons la gestion de ces autorités-là. Nous avons eu l'occasion, monsieur le journaliste, un jour, nous avons discuté de quelque chose de province dans une des émissions de parole aux députés ici. Nous avons parlé, nous avons relevé à l'époque la question de leadership. Ceux qui nous dirigent, ils sont de quel carrière? Ceux qui nous dirigent, ils viennent d'où? Ceux qui nous dirigent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Toutes ces questions-là nous restent perplexes. Donc, il est question ici de responsabilité de ceux qui sont appelés à gérer les provinces, de responsabilité de ceux qui sont appelés à gérer le État. Donc, les responsabilités sont à partager au niveau du gouvernement central.
Mais aussi au niveau des provinces. Merci beaucoup, Maître Bita, parce que là, on est bousculé par les dernières minutes de l'émission, alors qu'il y a un député provincial qui vient de faire son entrée dans cet échange. C'est Paulin Odiane qui est à Issiro. Merci d'être avec nous, Monsieur Paulin Odiane. Vous avez suivi depuis les débuts les difficultés relevées par les gouverneurs, et vous êtes député provincial, je crois, victime aussi de cette question d'un paiement et tout cela. Mais alors, comment on peut aujourd'hui arriver à résoudre cette question et permettre aux provinces de pouvoir fonctionner pour l'un ou l'autre?
Merci beaucoup pour la question. Je tiens à vous saluer également. Je crois que pour résoudre toutes ces difficultés, c'est simple, c'est tout simplement de trouver la solution à deux volets. Au niveau national, il faut qu'il y ait une volonté politique réelle d'accompagner les nouvelles provinces qui sont créées. Donc, de mettre de l'ordre dans la gestion de la chose publique, afin que nous ayons un budget conséquent pour permettre à ce qu'on puisse faire face aux différentes dépenses liées à l'existence même de l'État. Deuxièmement, au niveau provincial, il faut qu'il y ait également une bonne gouvernance. La bonne gouvernance permet à ce que le gouverneur puisse gérer d'une façon orthodoxe ce qu'on appelle communément la rétrocession. Et deuxièmement, organiser également les recettes, donc organiser les régies financières provinciales afin de doter la province des recettes locales conséquentes. Donc, si tout cela est combiné et qu'il y ait la volonté réelle de soulager la souffrance de notre population, de travailler dans l'intérêt général et non pas travailler comme on travaille maintenant, parce que tout le monde sait que non, et il est à la fin, donc on va changer de régime, on va changer le gouvernement, on va changer le premier ministre, il faut maintenant travailler pour sa poche. Donc si tout le monde met dans sa tête que non, je vais travailler pour l'intérêt général, pour ma population, alors il n'y aura pas de problème. Donc le problème réside à ce niveau-là. Il n'y a pas de bonne gouvernance, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. La bonne gouvernance n'existe pas. Et nous également, nous les élus, nous ne faisons pas notre travail.
Donc voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Dans cette configuration, quel doit être le rôle exact d'un député provincial pour arriver à décanter la situation? C'est la question que j'allais vous poser.
Le rôle des députés provinciaux consiste à contrôler, à évidemment à voter les budgets, mais à contrôler efficacement la gestion de la province. Mais on ne peut pas contrôler efficacement la gestion d'une province au moment où on n'a pas le moyen de sa politique. Un député qui passe 3-4 mois sans être payé, donc il ne peut pas contrôler efficacement celui qui a l'argent. C'est pratiquement impossible. Mmh. Et donc, celui qui a l'argent va séduire afin qu'il cesse avec tous ces bruits-là. Donc, on met les députés dans une position position faible. Et en même temps, au niveau de Kinshasa, la machine de la majorité est là. Donc, le ministère de l'Intérieur s'accapare des attributions de la province. Lorsqu'il y a un moyen de contrôle contre le gouverneur, on bloque la machine au niveau provincial. On appelle tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur et les initiatives de la motion pour les amener à Kinshasa, comme si les provinces étaient sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Voilà comment nous mettons à genoux la démocratie que nous avons
restaurée. Merci beaucoup, Paulin Odiane, député provincial à Issirou, la responsabilité du ministère de l'Intérieur. On termine avec vous rapidement, Maître José. Vous êtes en bout du mal. Le temps de donner la parole à notre invité pour conclure. Maître José, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour, monsieur Juer, je remercie tous les auditeurs. Je suis précisément Moujimaï, c'est pas José, je voulais juste préciser, c'est Josué.
Ah, maître Josué. Rapidement, maître, parce que là, vous n'avez plus 45 secondes.
Je suis très content du débat parce que j'ai compris que on a vraiment dépassionné les débats, on est un peu objectif. Les vrais problèmes, comme paraphraser mon ami qui a parlé de l'Équateur, c'est un problème de manque de crise de confiance. Parce que même au niveau des provinces, le même problème n'est pas que beaucoup de problèmes maintenant là, on jette toujours sur les gouvernements. Mais j'ai aimé parce qu'on veut dire la vérité et parce que là où se trouve l'erreur, on doit toujours désigner l'erreur. Même dans les provinces, même le pays qu'il y a là, il n'y a pas toujours la bonne gestion parce qu'on ne sait pas.
Dommage qu'on a perdu Maître Josué alors qu'il appréciait le débat, qui a été dépassionné, mais qui estimait, comme le disait tout à l'heure Paulin Odiane, député provincial à l'Équateur, il y a aussi un problème de gestion, même le peu qu'on rétrocède aujourd'hui en province, il y a un problème aussi de gestion, même le peu des ressources qui sont mobilisées. Notre ami Maître Bitalé disait tout à l'heure. Voilà, merci aux uns aux autres, vous avez été très nombreux, mais je rappelle encore le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux Éditeurs. On revient à vous, Alphonse, Louis Fassagi. On a suivi les uns et les autres. Les soucis, c'est d'aujourd'hui d'avoir des solutions, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on permette quand même à ces provinces de pouvoir fonctionner et que la population retrouve cette confiance. Parce que Arsène le disait, qu'il y ait cette confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et ça sera aussi votre mot de conclusion.
Écoutez, tu sais, je dis toujours, je fais toujours référence à la Bible. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Ici, quand vous accédez aux fonctions de dirigeants, on a tendance à croire que vous devenez voleur, hein, et que le redevable, parce que ici, il y a le peuple qui donne le moyen de la politique au gouvernement. Ici, la tendance est le contraire. Et donc, c'est-à-dire, c'est les dirigeants qui doivent donner de l'argent à la population. Pour parler de ma propre province, la gestion des ressources propres, ça nous a permis d'asphalter des routes, nous avons asphalté 22 km de routes, de construire des écoles, des hôpitaux, des stades, etc. Beaucoup de choses ont été réalisées. Dès lors qu'on démembre ces recettes-là, il faut s'aimer. Il faut s'aimer pour récolter. Et pour s'aimer, il y a les ressources à caractère national. Ce sont les ressources de la province. Donc, nous devons mobiliser tout ça, en avoir en main, pour pouvoir investir enfin et générer cette confiance. La confiance ne vient pas du coup comme ça. La confiance vient à travers la réalisation de projets. Quand on voit qu'on construit des routes, des écoles, etc., le peuple a confiance aux dirigeants qui font ça. Mais si le dirigeant n'a pas les moyens de sa politique, parce que tous ceux qui parlent là, ils ne payent même pas leur taxe. Vous allez poser la question à un avocat, est-ce que vous payez vos taxes? Il ne paye pas les taxes. Mais ils disent qu'on mobilise. On mobilise combien? Il n'a même pas le temps. Quand le gouverneur de province vous a présidé, on a tendance à agiter, mais tant qu'on est la réalité.
Merci. Voilà, merci beaucoup Alphonse Mugasangil de nous avoir donné de votre temps pour partager ce sujet avec les auditeurs qui ont été nombreux, à qui nous disons aussi et sincèrement merci. Ça va?
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain, mardi, pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. André Mongou était à la mise en onde, Julie Fezabongonda était au standard et à la réalisation. Pierrot et la Mijou vous la présenter sous la supervision de Martin Sebulangue. D'ici là, passez une agréable journée en compagnie de Radio Capi. Au revoir.